Cette émission vous est proposée avec la très gracieuse participation de Liane, Dimitri, Xavier Defosset, Fonk Sabine, Olivier Najba, Michael Lam, Imikado et son MK Framework, Rebecca Miller, Simon Kouderk et Ludovic Lardy. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on vous résume l'actualité tech, internet et gadgets. Toutes les deux semaines, vous avez un petit épisode qui vous permettra de tout savoir sur les choses importantes qui se sont passées dans l'univers de la tech. Je m'appelle Patrick Béja et je vous amène aujourd'hui un épisode un petit peu spécial. Comme certains d'entre vous le savent déjà, si vous me suivez sur Twitter, Facebook ou Google+, je suis en plein déménagement. C'est-à-dire que j'ai des montagnes de caisses partout autour de moi. On déménage dans 2 jours. Et évidemment, ça rendait les choses un petit peu compliquées, mais les anciens de l'émission savent que je ne vous abandonne pas comme ça. Ceux qui se souviennent de certains épisodes enregistrés au hasard dans des aéroports russes savent que j'essaye vraiment toujours de faire une émission, d'être au rendez-vous avec vous. J'espère que vous l'appréciez. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une émission un tout petit peu différente, effectivement, puisque je n'ai pas d'invité. Et je vais vous donner, vous livrer les 5 informations à retenir, les plus importantes. On aura quelques news et rumeurs aussi ensuite, mais l'épisode risque d'être un petit peu plus court que d'habitude. Évidemment, je suis seul à parler, donc ça veut dire qu'il n'y a personne pour me contredire quand je dis des bêtises. Donc l'émission sera forcément un petit peu plus courte. Il n'empêche, elle est là et vous aurez tout ce que vous avez besoin de savoir pour les 2 dernières semaines de l'actu tech, internet et gadgets. Bon, eh ben écoutez, on va commencer tout de suite avec une sorte d'ovni dans le monde de la tech dont vous avez certainement déjà entendu parler, mais dont vous ne savez peut-être pas exactement de quoi il en retourne. C'est la société Alibaba qui, malgré son nom, est une société chinoise, qui est une très très grosse société chinoise et qui vient de lancer son entrée en bourse. Alibaba, c'est quoi ? Alors, c'est une société chinoise, comme je le disais, et on le décrit souvent comme un mélange entre eBay, Amazon et Google. Pour le moment, ils n'ont de présence que en Chine, en Russie et un petit peu au Brésil, si je ne m'abuse. La société a été fondée par une personnalité chinoise, c'est un type qui s'appelle Jack Ma. Et là encore, la comparaison avec les sociétés américaines est apte, puisqu'on le compare souvent avec Jeff Bezos et même Steve Jobs. Alors, Alibaba et cette entrée en bourse a fait à peu près tous les gros titres de la presse tech ces 10 derniers jours. Et en fait, j'ai trouvé un article qui était pas mal, qui résumait un petit peu tout ce qu'englobait la société Alibaba. Et ça nous donne vraiment une impression, une sorte de vue d'ensemble qui nous permet de comprendre pourquoi Alibaba est tellement gros. Alors, dans cet article de Quartz, qui est un site américain, ils ont en fait résumé l'ensemble des activités et des sociétés d'Alibaba et ils les ont mis en comparaison avec des équivalents américains ou européens ou occidentaux qu'on connaît un petit peu mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous ces départements sont aussi gros que leurs équivalents de l'Ouest, mais il n'empêche, ça donne quand même une sacrée liste. Alors, pour les sites du côté d'Alibaba, on a des choses comme Alipay, AliYun, LiWang, Canbox, etc., etc. Ça vous dira pas forcément grand-chose, mais je vais vous lire la liste donc de ces équivalents. Vous allez voir que on comprend très très vite. C'est le meilleur moyen pour comprendre l'ampleur d'Alibaba. Donc, Alibaba gère des équivalents de PayPal, Amazon Web Services, donc les services cloud, Google Play, le magasin d'app mobile, Android, l'OS, Google Maps, JCPenney, un vendeur, une chaîne de magasins assez connue aux États-Unis, Groupon, qui fait les coupons de réduction, Dropbox, qu'on connaît tous, WhatsApp, qu'on connaît également, Uber, qui fait pas mal de controverses depuis quelques mois en France, eBay, Orbitz, qui est une société de réservation de voyages, Amazon.com, Kaplan, qui est une société de e-learning, Twitter, Spotify, Hulu et même ING Direct. Donc, ils ont une activité de financière. Donc, vous voyez, ça fait quand même un sacré paquet. Et je pense qu'avec cette liste, vous aurez compris pourquoi l'entrée en bourse d'Alibaba est si importante. D'autant plus que, comme je le disais au début de cette explication, ils sont aujourd'hui évidemment très actifs en Chine. Ils s'implantent en Russie et au Brésil. Mais le plus important, c'est que la société va réussir à acquérir, grâce à cette entrée en bourse, des fonds pour pouvoir s'étendre ailleurs. On imagine qu'ils pourront s'étendre aux États-Unis et sans doute en Europe, pourquoi pas. La valeur estimée d'Alibaba va de 150 milliards à 200 milliards. Donc, c'est une grosse, grosse, grosse affaire, évidemment. Et vous vous doutez bien qu'on risque de réentendre parler d'Alibaba dans les semaines et les mois à venir. C'est un gros, gros acteur du web qui risque d'arriver bientôt dans nos contrées aussi. Affaire suivante. Je m'excuse, je bois un petit peu entre-temps parce que du coup, je suis obligé de parler pendant toute l'émission et j'ai pas le temps de reprendre mon souffle ni d'avaler ma salive. Donc bon, s'il y a des petites interruptions, c'est parce que je bois un petit peu d'eau. Deuxième puzzle un petit peu surprenant qu'on a eu il y a une semaine de ça, c'est le rachat, ou en tout cas les rumeurs de rachat de Beats par Apple. Alors vous savez que Beats est une société qui fait essentiellement des écouteurs assez en vogue, et j'hésite à choisir, je fais attention avec les mots que je choisis parce que certains pensent que à cause de cette image, justement cette image très en vogue et le soutien de Dr. Dre, donc rappeur de son état, les écouteurs Beats sont de bonne qualité. Pourtant, la plupart des spécialistes du son, demandez à n'importe qui, ils vous diront que ce sont des écouteurs médiocres, de qualité médiocre pour le prix qu'on les paye. Donc il y a une immense composante marketing dans ces écouteurs Beats. Il y a aussi un service de streaming comparable à Spotify, mais qui n'est pas du tout aussi performant. Le nombre d'abonnés n'est en rien comparable. Et pourtant, Apple, selon les rumeurs, ce sont des rumeurs très persistantes. Vous savez que généralement, je ne deal pas dans les rumeurs qu'on entend à un coin de table et qui n'ont pas de substance. Celles-ci, on a eu plusieurs indices nous laissant penser qu'a priori, ça pourrait effectivement se produire. Et même, ça devait se produire il y a quelques jours, mais la chose a été retardée. Donc, pourquoi est-ce que Apple aurait acheté Beats Audio ? C'est une énorme question, un gros mystère, et je peux vous dire que j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet, et je peux dire avec une assez grande confiance que parmi la demi-douzaine de théories qu'on a entendues, personne ne sait vraiment de quoi il en retourne. On peut tous se dire que c'est peut-être ci ou peut-être ça, mais la vérité, c'est que personne n'en a aucune idée. Donc, si vous lisez un article qui vous dit « Voilà pourquoi Apple paye 3,2 milliards pour Beats », eh ben, prenez-le avec un grain de sel, parce que a priori, on a personne qui est vraiment sûr. Alors, il y a eu différentes théories, comme je le disais. Certains disent que ça leur permet d'avoir du matériel. S'ils veulent vendre plus de matériel avec des marges élevées, c'est possible pour tout de suite, et que le service de streaming leur sert à préparer l'avenir. On sait qu'ils ont différents départements avec iTunes qu'ils essayent d'étendre, notamment avec iTunes Radio, mais qui n'est pas tout à fait un service de streaming. Ils pourraient acheter la technologie du service de streaming de Beats pour l'appliquer à iTunes plus tard. Il y a des gens aussi qui disent, avec un petit peu en plaisantant, puisque Beats Audio vend du matériel de qualité médiocre à des tarifs importants, peut-être que ça rentre tout à fait dans la ligne commerciale d'Apple. On le dit en plaisantant, mais il faut avouer que le marketing de Beats fonctionne, donc peut-être que c'est un de ces éléments qui les a convaincus de les acheter. On a aussi entendu que Jimmy Iovine et Dr. Dre, qui sont les deux grosses têtes, les deux gros exécutifs, les dirigeants de Beats, seraient à la conférence de juin d'Apple, la WWDC. Donc il y aurait vraiment une place pour eux prévue dans l'organigramme et qu'ils ont des plans très importants. Voilà, c'est en gros... Une autre théorie. On a entendu que Apple préparait un service HD audio pour iOS 8. C'est-à-dire que, comme vous le savez certainement si vous êtes amateur de son de qualité, les MP3 et les AAC, qui sont les fichiers qu'utilise Apple pour iTunes, même s'ils sont de qualité correcte pour du matériel numérique, ils ne sont pas du tout au niveau des fichiers audio de qualité optimale qu'on peut obtenir. C'est-à-dire qu'ils font une compression avec perte. Donc le son est forcément détérioré. Et il y a des fichiers qui font de la compression sans perte, qui sont de qualité bien supérieure à ce qu'on peut avoir, même dans les MP3 ou les AAC, des meilleurs services qu'on peut utiliser sur le net. Eh bien, Apple pourrait préparer un service d'audio de grande qualité qui s'intégrerait bien sûr avec iTunes et peut-être avec les équipes de Beats qui appartiendraient maintenant à Apple. Il reste à savoir si ça ferait augmenter le prix d'iTunes ou s'il faudrait repayer encore une fois toute la musique qu'on a déjà achetée. Peut-être qu'Apple ferait genre un forfait à 50€ ou 100€ et puis tout ce qu'on a déjà acheté serait automatiquement upgradé à la qualité HD. On verra. Tout ce que je disais sur Beats, je vais passer à d'autres choses sur Apple, mais tout ce que je disais sur Beats, rappelez-vous, on n'en sait rien, personne n'en sait rien sur la réalité de cette histoire. D'autres informations Apple, ils pourraient avoir dans les prochains iOS une possibilité d'avoir deux applications côte à côte pour une sorte de multitasking, de multitâche améliorée sur les tablettes et sur les iOS habituellement, peut-être limitée à l'iPad, ça serait intéressant. Une nouvelle résolution pour l'iPhone 6 qui serait plus grand, ça on en a entendu déjà parler deux ou trois fois, et enfin peut-être des problèmes dans la chaîne de fabrication parce que Apple qui voudrait employer le saphir artificiel rencontrerait des problèmes de manufacture avec ce type de technologie. Bref, ça c'est un petit peu plus les rumeurs, mais comme on était dans le monde d'Apple, je voulais vous en parler également. Alors, la suite, je vais quand même faire la petite pause, j'avale mon coca. Ah, voilà, la gorge est tout à fait rafraîchie. Un sujet un petit peu plus politique, après on parlera de Microsoft et de la FCC là encore, mais un sujet un petit peu plus politique et éminemment important, qui a provoqué l'ire d'un certain nombre de juristes, et notamment de ma femme, qui était très énervée contre l'Europe. Je la regarde pour voir si elle réagit, je crois qu'elle ne m'écoute pas. Elle rigole. Bon, bref. Donc, l'Europe, la Cour de justice de l'Union européenne, a rendu une décision assez importante en rapport avec le droit à l'oubli. Là encore, je suis sûr que vous avez entendu le sujet. Peut-être, c'est un petit peu complexe à comprendre, donc je vais essayer, comme toujours, de vous l'expliquer de ce que j'ai compris, moi, dans des termes assez simples. Et en fait, il s'agissait d'un procès dans lequel... Un Espagnol qui avait eu un problème de banqueroute personnelle il y a quelques années et qui avait été obligé de mettre sa maison en vente, c'était une vente forcée, pour payer ses dettes, a constaté qu'on voyait, quand on faisait une recherche Google sur son nom, on avait systématiquement cette information qui ressortait, les articles en question où on parlait de lui. Il a invoqué le droit à l'oubli, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, ou au bout du moment où on n'a plus l'utilité de cette information, c'est-à-dire que maintenant il est solvable et cette information n'est plus vraiment utile pour des personnes qui pourraient rentrer en relation avec lui, à partir de ce moment-là, on a ce qu'on connaît bien en France, c'est-à-dire le droit à l'oubli. C'est un terme juridique très clair pour les condamnations, notamment des adolescents. Leurs condamnations n'apparaissent pas une fois qu'ils ont dépassé, qu'ils ont atteint l'âge adulte, qu'ils ont plus de 18 ans. Il y a un petit peu le même concept dans d'autres domaines. Donc là, en l'occurrence, il a fait un procès à Google pour que cette information n'apparaisse plus sur le moteur de recherche Google maintenant qu'il était solvable. Alors, la décision est évidemment très complexe. Les cours espagnoles ont fait remonter la décision jusqu'à la Cour de justice européenne. Ça a été très compliqué. Je simplifie les choses. La Cour de justice européenne a répondu sur une partie de cette décision que Google avait effectivement l'obligation de répondre à ce type de demande. Ça a fait un tremblement de terre dans le net et dans les domaines juridiques. Voilà, je trouve mes mots. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gros problème... Alors, il y a trois éléments. D'une part, Google... Et effectivement, ils ont déterminé que Google gérait les informations par cette organisation qu'ils font avec les éléments qu'ils retrouvent sur le web. Ils les organisent d'une certaine manière, donc ils peuvent être considérés comme un organisateur d'informations. Donc évidemment, les obligations ne sont plus les mêmes quand on rentre dans cette catégorie. Pourquoi pas ? Il y a un autre élément sur lequel je vais passer, mais le plus important, c'est que il faudrait qu'il y ait maintenant un formulaire sur Google, et ils ont dit qu'il devait être implémenté dans les deux semaines, un formulaire sur Google pour pouvoir demander le retrait de certains sites, une sorte de blacklist de certains sites sur Google, pour ce droit à l'oubli. Le gros problème, en fait, il y en a deux. D'une part, les gens peuvent demander à Google de retirer des éléments qui sont malgré tout légalement valables, c'est-à-dire que le site auquel fait référence Google, a le droit de les afficher. Et la personne qui va faire cette demande ne pourrait pas demander au site lui-même de retirer l'information. Par contre, ils peuvent demander à Google de ne pas la faire apparaître. Donc, c'est une information légale que quelqu'un peut demander à supprimer de Google. La raison, la logique qu'a invoquée la Cour de justice de l'Union européenne pour ça, c'est que Google apparaît comme un amplificateur de cette information. Donc, si l'information est trouvable d'une part, pourquoi pas, mais l'amplifier, c'est la faire remonter et en faire presque un élément principal. Et donc ça fait trop pour la Cour de justice européenne. Bien sûr, le problème, c'est que ça met Google dans une position impossible. D'une part, parce que... ça veut dire que ça peut s'apparenter plus ou moins à de la censure d'une certaine manière, parce que on a vu d'ailleurs, les exemples ont suivi très très vite, il y a des hommes politiques, ou un homme politique en particulier, qui a demandé à faire retirer des histoires qui ne lui plaisaient pas, je crois que c'était des histoires de corruption qu'il ne voulait plus voir apparaître sur Google. Un autre homme qui avait été accusé d'avoir en sa possession du matériel pédopornographique a aussi demandé à faire retirer ses informations de Google. Donc ça met, en fait, le cœur de ce problème, c'est que ça met en opposition le droit à l'oubli, qui est un droit bien réel, et le droit à l'information, qui est un autre droit bien réel, qui est même un droit fondamental que les cours des droits de l'homme mettent souvent en avant. Donc là, et le gros problème, c'est que ça met Google au milieu de tout ça, et ça donne à Google, même pas le droit, mais au contraire l'obligation de juger à quel moment le droit à l'oubli est plus important que le droit à l'information. C'est une position absolument impossible pour Google. C'est très très c'est un principe juridique extrêmement néfaste quand on donne ce droit à une entité privée. Il faudrait évidemment que ce soit une entité publique, une entité juridique qui détermine ce genre de choses. Et on a vu qu'effectivement ça peut avoir des conséquences inquiétantes quand c'est pas bien fait. De là à ce que ça se transforme en une censure immédiate, il y a peut-être un pas, parce que le droit à l'oubli, c'est la définition, c'est qu'à partir du moment où cette information n'est plus pertinente ou importante, on peut la supprimer. En l'occurrence, c'est Google qui fait l'équilibre. Et, entre parenthèses, une autre raison pour laquelle c'était une décision très importante, c'est que ça ne s'applique pas qu'à Google. C'est quelque chose qui pourrait, en théorie, s'appliquer à n'importe quel entité du net qui a un moteur de recherche. Donc, évidemment, on pense tout de suite à des réseaux sociaux, à Twitter, à Facebook, etc. Mais ça va beaucoup plus loin. Des sites comme Amazon ou eBay pourraient eux aussi être affectés. Bon, ensuite, ça devient un peu plus compliqué. On ne sait pas exactement comment ça marcherait. Mais il n'empêche que, pour toutes ces raisons, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne a laissé beaucoup de gens un petit peu incrédules, on va dire. On n'a pas vraiment compris la logique de leurs décisions. D'autant plus que quand on se réfère à la question du droit de l'information, qui est évidemment très important, ils n'ont quasiment pas motivé leurs décisions. La question du droit à l'information était une toute petite partie de leur décision. Donc c'est quelque chose qui est vraiment étonnant. Dans tous les cas, il est possible que dans les mois et les années à venir, les modifications des différentes lois qui régissent ce genre d'information et ce genre de choses évoluent pour que le droit à l'information prévale, bon, peut-être pas prévale, mais en tout cas, que les moteurs de recherche bénéficient de la même exception que les journaux pour cette question de droit à l'information. C'est-à-dire que les journaux ne sont pas affectés par le droit. Là, je commence à sortir de mon domaine de connaissances pour ce genre de choses, donc n'hésitez pas à me le dire si je me trompe, mais ce que j'ai compris, c'est que les journaux ont une exception dans le droit à l'information, plutôt dans le droit à l'oubli, et que chez eux, le droit à l'information prévaut généralement. On peut espérer que Google et les autres moteurs de recherche et bénéficient de cette même exception à l'avenir. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc, si vous avez fait des bêtises quand vous étiez un petit peu plus jeune et que vous voulez qu'elles n'apparaissent plus sur Google, a priori, dans une semaine, il y aura un formulaire comparable à celui du copyright qui sera disponible pour vous sur Google pour faire retirer ces informations-là, pour mettre les sites qui les produisent sur une blacklist Google. Bon, autre sujet un petit peu surprenant, c'est pour ceux qui ont entendu l'information, vous saurez à quel point c'était étonnant. Microsoft a annoncé que sa Xbox One serait mise en vente sans l'accessoire Kinect, qui est la caméra de contrôle. Vous savez, cette caméra qui permet à la Xbox de vous voir et de vous entendre et qui vous permet de contrôler la machine ou les jeux en gesticulant devant ou de donner des ordres à votre Xbox. Alors, la Xbox se vendait beaucoup moins bien que la PlayStation 4 et donc certains disent que c'était inévitable qu'on arrive à au passage. En gros, la Xbox était vendue à 500 € avec la Kinect et la PlayStation 4 était vendue à 400 € et elle, sans l'accessoire caméra qui était achetable séparément. Microsoft avait dit depuis un an, depuis l'annonce de la console, que le Kinect était un élément indissociable de sa console. C'était vraiment la vision qu'ils avaient de cette machine qui intégrait la Kinect et qu'ils ne pouvaient pas la vendre sans. Ils ne pouvaient pas vendre la console sans la Kinect. Là, ils ont dû faire marche arrière. C'était très surprenant parce qu'ils avaient fait marche arrière sur d'autres choses avant et ils avaient tenu mordicus à avoir ce Kinect, cet appareil. Et finalement, ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient mettre en vente la console Xbox One à 400 $ à 400 € ou 400 $ à partir du 9 juin, sans la Kinect. Le Kinect serait achetable séparément. C'est vraiment quelque chose d'étonnant et ça montre que Microsoft a vraiment dû se dédire et faire un retour en arrière sur tous les éléments qui concernent la Xbox One. Et l'explication, comme je le disais, c'est des chiffres de vente qui sont très loin derrière ceux de la PlayStation. La PlayStation s'est vendue à ce jour à un peu plus de 7 millions d'unités. La Xbox a annoncé 5 millions d'unités qui ont été envoyées, ce que ça veut dire c'est qu'elles sont dans les magasins. Les estimations sur les ventes sont à 3 ou 4 millions seulement. Donc vous voyez, on est à la moitié de ce que fait la PlayStation. Donc il n'est finalement pas si surprenant de voir que Microsoft fait marche arrière pour ces raisons-là. Mais évidemment, ça les affecte un petit peu, ou en tout cas l'image que les gens ont de Microsoft. Quoi qu'il en soit, disons que la vision négative, c'est Microsoft a dû admettre qu'ils avaient fait une erreur et voilà, on le disait depuis le début et donc c'est une déception. Et d'autres diront au contraire, Microsoft a finalement écouté ce que les gens voulaient. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disaient dans leur communication qui était un petit peu PR et corporate, mais ils disaient on veut donner plus d'options aux gens. Certains veulent la console sans Kinect, donc maintenant ils le peuvent aussi. Évidemment, la console avec Kinect reste toujours en vente, mais donc certains disent voilà, ils écoute et ils ont fait ce que tout le monde voulait. Donc c'est tard, évidemment, mais maintenant c'est une bonne chose quand même. Voilà, je vous laisserai faire votre opinion sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que la communication de Microsoft entre la Xbox One, sur laquelle ils ont dû se dédire entièrement depuis un an sur tout ce qu'ils avaient annoncé, et d'autre part Windows 8 sur lequel ils doivent aussi faire marche arrière de manière très spectaculaire, vous le savez puisqu'on suit cette aventure depuis quelques mois maintenant, on se dit qu'il y a peut-être un problème de communication chez Microsoft, ou peut-être que c'était un problème de communication chez l'ancien Microsoft et que maintenant avec Satya Nadella qui est à la tête de la chose, eh bien les choses vont aller beaucoup mieux et sont déjà en train de changer. Un Windows 365, puisqu'on parle de Microsoft, il est possible qu'on voit arriver bientôt un Windows 365 à abonnement. Ce que ça voudrait dire, c'est que on paye de la même manière qu'on peut payer une somme mensuelle pour avoir accès à Office 365. Ça serait la même chose pour Windows 365. Peut-être, on parlait aussi de la question de Windows dans le cloud. Peut-être que ces deux projets sont liés. Et dernière info, il pourrait y avoir une annonce de la Microsoft Surface Mini, donc autour de 8 pouces sans doute, le 20 mai, donc au lendemain ou le jour où sortira cet épisode. Et ça sera le jour où moi je serai en train de déménager, donc je ne sais pas si je pourrais suivre l'annonce en direct. J'ai failli oublier de faire ma pause rafraîchissement de gorge. Voilà, je suis prêt à repartir pour ce gros sujet qui sera le dernier de nos gros sujets, de ce qui est d'habitude les trois infos à retenir. C'est cette histoire de FCC et de neutralité du net dont nous vous avions longuement parlé à l'épisode précédent. Je ne vais pas refaire tout l'historique. Mais je vais plutôt aller directement à la conclusion. Il y a des choses qui ont évolué. Évidemment, les géants du web ont commencé à défendre la neutralité du net. Il y a plus de 50 acteurs qui ont d'acteurs. Je retrouve mes mots, excusez-moi. Plus de 50 acteurs de l'industrie tech qui ont dit à la FCC que le fait d'implémenter cette règle qu'ils voulaient implémenter qui permettait aux fournisseurs d'accès Internet de faire payer des acteurs du net pour avoir une bonne bande passante, donc cette règle allait tuer les startups, c'est tout ce que nous disions tous. Et finalement, la FCC a tout de même mis... cette proposition en ligne, c'est-à-dire que c'est une proposition qu'ils vont avoir maintenant plusieurs mois, que le public va avoir plusieurs mois pour commenter. Mais ce dont on se rend compte, c'est que la reclassification des fournisseurs d'accès à Internet qui était jamais évoquée, qui serait la solution ultime à ces problèmes de neutralité du net, puisque ça obligerait les fournisseurs d'accès à Internet à traiter le réseau de manière neutre, donc ils seraient jugés d'utilité publique, donc ça serait une reclassification en tant qu'utilité publique qui était politiquement très difficile à évoquer. Eh bien, cette reclassification, maintenant, après tout le scandale qu'il y a eu ces dernières semaines, cette reclassification est mentionnée dans le plan, alors que ce n'était pas le cas au tout début de quand on venait d'entendre parler de ce plan. La reclassification n'était même pas évoquée. Et Tom Wheeler, donc le président de la FCC, qui a établi ces règles qui ont inquiété tout le monde, a mentionné également la possibilité de reclassifier les fournisseurs d'accès Internet en tant que organisation d'utilité publique. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que effectivement la dureté de cette proposition qu'il a fait, qui a provoqué une levée de bouclier par tout le monde, en fait a ramené sur le devant de la scène la possibilité de cette reclassification. Et on en est arrivé à chez certaines personnes à avoir une théorie un petit peu étrange, c'est que soit Tom Wheeler, donc le président de la FCC, qui a fait partie des lobbies de l'industrie du câble et de la téléphonie, soit c'est un imbécile complet qui ne comprend même pas comment marchent les choses et qui dit des choses dans sa proposition qu'il va ensuite contredire dans les discours qu'il fait à droite ou à gauche. Donc, c'est l'interprétation. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on était complètement surpris de l'entendre dire certaines choses qui allaient à l'encontre claire de ce qui était écrit dans son dans sa proposition. Donc, soit il gère les choses de manière très hasardeuse, soit, et c'est cette théorie qui est très intéressante, c'est que c'est un génie politique. C'est-à-dire que lui, en fait, il voudrait effectivement, au final, remettre cette reclassification sur le devant de la scène, voire même l'appliquer. Et par calcul politique absolument démoniaque, il a fait des propositions tellement outrancières, mais en même temps suffisamment subtiles pour qu'elles soient envisageables et qu'elles soient acceptables par les acteurs de la société du câble, enfin les acteurs de la fourniture d'accès à Internet. Il a mis en place, il a écrit la proposition d'une manière suffisamment subtile pour que ça soit acceptable et qu'en même temps, ça lève, ça fasse lever tous les défenseurs d'Internet pour qu'ils remettent ce problème sur le devant de la scène et qu'au final, dans un mois ou deux, après que tout le monde ait proposé des commentaires sur cette proposition, on se rend compte que effectivement le public et l'industrie tech a besoin de cette reclassification et que la FCC du coup est le capital politique et public pour pouvoir vraiment en reparler et s'opposer à du coup la levée de bouclier inverse qui viendrait du côté des fournisseurs d'accès Internet qui ne voudraient pas cette reclassification. Donc, est-ce que ça serait un moyen de se donner des munitions pour s'avancer contre les fournisseurs d'accès Internet, sachant qu'il y a encore 3 semaines, cette proposition, comme je le disais, était une sorte de suicide politique. Aujourd'hui, on voit le début d'une possibilité de cette reclassification. C'est quelque chose de très intéressant. On ne sait pas du tout aujourd'hui de quoi il en retourne. Est-ce que Tom Wheeler a juste fait un petit peu n'importe quoi ou est-ce qu'il avait tout calculé depuis le début? J'imagine qu'on ne le saura que dans quelques mois, quand tout ça sera arrivé à son terme. C'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, cette histoire de la FCC et de ce qui est en train de se passer là-bas. J'espère que mon résumé vous aura permis d'y comprendre un petit peu plus. Bon, encore un petit peu de coca et je passe aux news et rumeurs. Voilà. Avant les news et rumeurs, il faut tout de même évidemment que je vous dise qu'il y a d'autres personnes encore qui nous ont soutenus sur Patreon et il faut que je les remercie dignement. Donc, merci, merci du fond du cœur à vous qui me donnez des sous sur Patreon, qui contribuez à l'élaboration du Rendez-vous Tech, nommément Laurence Villeneuve, Didier Lutti, Uréakim, Rémi Castin, Pascal Sulocha, Jérôme Mico, Doudou, un nom tout à fait adorable, Doudou, Flavien Henrion, Jonathan Lebrun et Reda Médour. Merci à vous tous. Je fais un petit check sur le Patreon du Rendez-vous Tech et je me rends compte qu'il y a 338 personnes qui ont décidé de donner pour soutenir l'émission. Ça me fait incroyablement plaisir. Si vous voulez nous soutenir vous aussi, si vous y pensiez depuis un moment et que vous vous dites « Bon, maintenant, ça y est, on arrive dans l'été, il fait beau, donc je vais soutenir le Rendez-vous Tech. » Je ne sais pas pourquoi ça vous donnerait envie de soutenir le Rendez-vous Tech, mais pourquoi pas. Vous allez sur patreon.com/rdvtech. Le lien est évidemment dans les notes de l'émission. Certaines personnes, j'ai rencontré 2 personnes ces dernières semaines qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas où aller pour soutenir l'émission. Il y a une... Donc, j'ai fait une redirection depuis l'adresse lrdv.fr. lrdv.fr, comme le rendez-vous .fr, eh bien, ça vous emmène directement sur la page en question. Donc, voilà, c'est un autre moyen plus simple de vous y rendre. C'est lrdv, comme le rendez-vous, .fr. Bon, on enchaîne avec les news et rumeurs, qui sont donc un petit peu moins importantes, mais il y a quand même des choses intéressantes là-dedans aussi. Orange se serait décidé à contester les conditions du rachat de SFR par Numéricable. Évidemment, comme toujours dans ce genre d'opération, les concurrents vont tout faire pour mettre du bâton dans les roues de leurs concurrents, c'est clair. Par contre, une chose qu'on a entendue, c'est qu'il serait possible qu'il y ait un rapprochement entre 2 acteurs du marché existant. Alors, il n'y en a pas 1000, hein, c'est soit Bouygues et Free, soit Bouygues et Orange. Free et Orange, je pense qu'ils sont plus super copains en ce moment. Donc, il serait possible que Orange et Bouygues se rapprochent. Comment est-ce que ça serait une fusion, une acquisition, quelque chose comme ça? On ne sait pas, mais c'est quelque chose qui a été évoqué. Et donc, on est en train de d'assister à une vraie consolidation dans le secteur. D'autant plus que, comme vous le savez bien, le gouvernement n'est pas contre cette idée de consolidation. On a vu aussi que Numéricable serait en train de penser à s'offrir Virgin Mobile. Virgin Mobile. Là encore, c'est un indice de plus sur la consolidation du marché. Oui, je dis serait en train de penser. En fait, Virgin Mobile est déjà entré en négociation exclusive avec Numéricable en vue de son rachat. Alors, vous le savez, Virgin Mobile, c'est un MVNO, un acteur virtuel du marché de la téléphonie mobile. Mais donc, c'est moins important que Orange et Bouygues, bien sûr. Mais il n'empêche, c'est quand même un fichier client et une certaine infrastructure qui est importante pour les acteurs de la fourniture d'accès Internet. Il semble qu'on soit en train de se rediriger vers sans doute une consolidation, comme je le disais. Donc peut-être que d'ici quelques mois, on n'aura plus que trois acteurs du marché. Comme je le disais, même si j'ai des problèmes avec Free, philosophiques presque sur la neutralité du net, comme je le disais, tant que Free fait partie des trois, je pense qu'on sera à peu près tranquille pour les questions de concurrence. Il y aura quand même une concurrence saine. Si Free se fait bouffer par quelqu'un d'autre, ça sera un petit peu plus difficile. Pour le moment, ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Free va très très bien, donc c'est une bonne chose. Autre sujet, vous avez peut-être entendu parler du fait que Firefox a implémenté... Firefox, c'est le navigateur, hein, bien sûr, produit édité par la société Mozilla, qui est une société, une organisation entièrement open, ouverte, logiciel ouvert. Donc, ils ont implémenté les DRM, ou plutôt ils ont implémenté un module qui va chercher un module de DRM sur les sites d'Adobe, ce qui a fait un petit peu de vague dans le milieu de l'open source. Et c'est effectivement quelque chose de frustrant, parce que c'est l'un des grands acteurs de l'open source. Et donc là, ils vont intégrer, par un moyen un petit peu dévié, les DRM, donc la gestion de droits, qui va par exemple faire que un contenu sera disponible pendant 24 heures quand vous le louez, ou que vous ne pouvez pas utiliser tel contenu sur telle ou telle machine. Donc c'est la gestion des droits du producteur de ce contenu. Le gros problème, en fait, c'est que ces systèmes sont en train d'être implémentés chez tous les autres navigateurs. Alors évidemment, c'est Google qui a un intérêt à le faire avec du fait qu'ils aient des contenus vendus sur leur Play Store. Apple, évidemment, c'est un petit peu la même chose. Et donc, il restait Firefox tout seul et Opera de l'autre côté là-bas, hein, qu'on n'oublie pas, hein, mais tout de même. Firefox qui risquait de se faire marginaliser. Le problème, c'est que au final, l'utilisateur final, s'il va sur un site avec Chrome et que Chrome lui affiche le contenu du site, et que de l'autre côté, il va sur le même site avec Firefox, et que Firefox ne l'affiche pas parce qu'il n'a pas les DRM qui permettent d'utiliser ce contenu, eh bien, évidemment, Firefox risque d'être délaissé au profit de au profit de Chrome et de Safari, donc de Google et de Apple. Et donc, c'est une décision qui est vraiment prise à contre-cœur, mais c'est une décision qu'ils se devaient de prendre s'ils veulent continuer à offrir une alternative, philosophiquement en tout cas open source. C'est malheureusement une chose qu'ils sont obligés de concéder. C'est bien d'être absolutiste dans sa philosophie, bien sûr. Là, je crains que effectivement ça ait été un mal nécessaire et qu'ils soient vraiment obligés de le faire s'ils ne veulent pas en souffrir plus tard. Espérons que les choses ne continueront pas à glisser dans cette direction, parce que vous le savez, c'est très important d'avoir des alternatives, bien sûr de la concurrence partout, mais aussi des alternatives open source. Et Firefox est évidemment une alternative open source majeure dans le monde des navigateurs Internet. Donc espérons qu'il n'ait pas à aller encore plus loin dans ce domaine-là. Autre sujet, la Russie a discrètement passé une loi qui oblige les blogueurs à s'enregistrer auprès du gouvernement. Alors, on sait évidemment ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. On sait que les choses vont de plus en plus mal pour la liberté d'expression et la liberté de la presse en Russie. Déjà que ce n'était pas forcément joyeux il y a quelques années. Maintenant, c'est de pire en pire. Là, c'est encore une confirmation que les choses sont assez difficiles dans ce pays. Je voulais juste en parler parce que c'est souvent le genre de choses qui sont passées sous silence ou qu'on mentionne à peine en bas de page dans les magazines ou dans les journaux. Je voulais mettre un petit peu la lumière dessus aussi parce que c'est vraiment quelque chose de dangereux et le climat de ce qui se passe en Russie en ce moment est assez inquiétant. Donc voilà, c'est mentionné. Autre chose, Canal+ est prêt à rentrer au capital de Dailymotion. On avait évoqué différentes possibilités avec Dailymotion. Canal+ pourrait entrer au capital. Quelque chose d'intéressant aussi. J'avais deux petites histoires sur Montebourg qui était en train de jouer les entremetteurs pour caser Bouygues Télécom. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est possible que les choses... Enfin, il est clair que les choses sont encouragées par le gouvernement. Autre sujet assez surprenant, Apple et Google ont finalement enterré la hache de guerre sur les brevets, quelque chose d'assez vraiment étonnant, hein. Ça n'englobe pas les questions de Samsung, hein, le gros procès entre Apple et Samsung. Peut-être qu'à terme ça aura des conséquences, mais en tout cas là, Apple et Google directement, et donc Motorola, hein, puisque les procès avaient été initiés au moment où Motorola appartenait encore à Google, donc ils ont enterré la hache de guerre et ils ont même dit qu'ils allaient travailler à l'établissement de licence pour les brevets universels. Vous savez, il y a cette histoire de Friends, c'est les brevets qui sont essentiels au fonctionnement des matériels et qui doivent donc être, qui ne peuvent pas être refusés par les détenteurs de ces brevets. Ils allaient travailler pour, en tout cas, pour améliorer la réforme des brevets dans certains domaines. Ils allaient travailler ensemble pour ça. Donc peut-être que à terme, on aura un point final qui sera mis à toutes ces histoires frustrantes de brevets où certaines sociétés et certaines entités brevettent, je ne sais pas, le fait de d'appuyer sur un bouton. Je plaisante, mais c'est presque... Enfin, à vrai dire, c'est tout à fait sérieux. Je ne sais pas si vous le savez, mais Amazon, par exemple, a le brevet qui permet des systèmes qui permettent d'appuyer sur un seul bouton pour activer l'achat. C'est-à-dire que quand vous allez sur Amazon et que vous avez achat en un clic, c'est une spécificité Amazon. Et si vous connaissez le fonctionnement d'iTunes, par exemple, il est possible sur iTunes, sur l'iTunes Store et sur l'App Store d'acheter en un clic. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton et ça l'achète tout de suite. Eh bien, Apple paye une redevance à Amazon pour cette utilisation. Donc, le fait de breveter l'appui sur le bouton, c'est pas totalement, c'est pas qu'une plaisanterie. Bref, donc espérons que les choses iront mieux quand Apple et Google se seront assis à une table et auront réussi à améliorer ce problème de brevets et auront réformé la question de l'attribution des brevets, en tout cas aux États-Unis. Quelques histoires supplémentaires, puisque finalement on a été assez vite, comme je m'en doutais. Vous voyez, pour une fois, je m'y tiens. Hein. À chaque fois, je dis qu'on va faire un peu plus court. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est bien le cas. Le USA Freedom Act, l'acte du freedom américain, un nom particulièrement patriotique, qui finalement en fait est une bonne chose puisque c'est la loi ou la décision qui va encadrer la manière dont la NSA et les autres organismes de surveillance vont pouvoir utiliser les données, les métadonnées et les données du téléphone. Alors c'est une bonne chose. Ce que je dis depuis le début, c'est que malheureusement ça ne couvre pas, ces législations qui sont en train d'être mises en place ne couvrent pas le gros morceau qui a été révélé par Snowden, c'est-à-dire l'espionnage sur Internet, qui est vraiment là le truc le plus inquiétant, et ça ils n'y touchent pas du tout. Mais bon, ils font déjà ça, c'est pas mal. Si cette histoire vous intéresse particulièrement, je vous recommande le livre Nowhere to Hide, Nulle part où se cacher. C'est le livre de Glenn Greenwald qui a été le journaliste principal qui a travaillé avec Edward Snowden. Bon, il y avait plusieurs personnes, hein, mais lui, c'était la personne essentielle. Et il a donc sorti son livre où il raconte la manière dont tout ça s'est passé. Ça s'appelle donc No Place to Hide et c'est de Glenn Greenwald. Et entre parenthèses, si vous voulez pas lire le livre et que vous voudriez plutôt voir un film, eh bien, figurez-vous que Sony a déjà racheté les droits de l'adaptation cinématographique de ce livre. Donc, on pourra sans doute voir ça au cinéma dans pas très longtemps. Quoi d'autre ? Ben, je crois qu'on arrive à la fin. Il y a des histoires moins importantes comme le fait que Google intègre les données Uber à Google Maps, TripAdvisor qui rachète La Fourchette. Si vous n'utilisiez pas TripAdvisor, c'est un site avec lequel qui nous a beaucoup aidé dans notre voyage au Japon notamment, qui nous a permis de trouver des restaurants qu'on n'aurait jamais trouvé avant, qu'on n'aurait jamais trouvé autrement, pardon. Eh bien, TripAdvisor va intégrer des données françaises aussi, donc bientôt, si vous utilisez La Fourchette, vous serez peut-être amené à utiliser TripAdvisor et c'est un excellent site, donc je vous le recommande. Il y a eu un vol de données personnelles de 1,3 million de clients chez Orange. Ce qui est marrant, c'est que même si vous n'êtes pas client chez Orange, vous êtes peut-être quand même concerné parce que c'est les 1,3 million de clients et d'autres prospects. Vous savez, quand vous recevez ce coup de fil, bonjour, je suis Jacques Dubois, je vous appelle à propos de votre abonnement mobile, et que vous n'êtes pas chez Orange et qu'il est chez Orange quand même, eh ben, c'est des prospects. Eh ben, si ça se trouve, c'est pas si ça se trouve, il y a des données de ces prospects-là qui sont aussi inclus dans ce vol de données personnelles. Donc, bon, on commence presque à en être blasé de toutes ces histoires. Je crois que ça va être tout. Il y a quelques autres informations qui ne sont pas si intéressantes que ça. Donc, je pense qu'on va arriver à la conclusion de cet épisode. Moins d'une heure de Rendez-vous Tech invraisemblable. C'est incroyable même. Mais quand je suis tout seul, vous voyez, c'est simple en fait. Ce que ça veut dire, c'est que quand il n'y a personne pour m'interrompre, eh bien, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus efficace. N'est-ce pas ? Bon, je plaisante évidemment. Ne vous inquiétez pas pour les épisodes suivants. Il y aura bien sûr d'autres personnes qui seront avec moi parce que c'est évidemment mieux quand il y a des gens qui peuvent me dire que je dis des bêtises. Ils seront donc de retour dans le prochain épisode. En attendant, je vous rappelle que je suis Patrick Béja. J'ai une page sur Facebook. Tiens, j'en parle pas souvent de ma page Facebook. C'est facebook.com/notepatrick. Pas surprenant, hein. Comme sur Twitter, hein. Donc c'est twitter.com/notepatrick ou facebook.com/notepatrick. Vous pouvez aussi laisser des avis et des notes sur iTunes pour nous aider à trouver plus de visibilité. Comme l'a fait V. Larieux, il dit félicitations, 5 étoiles. Merci pour la qualité du podcast, la pertinence des intervenants. Aujourd'hui, je suis le seul intervenant, donc par défaut, ça veut dire que je suis pertinent. Merci à toi. Et le travail de préparation qui garantisse des émissions toujours de qualité, sans oublier l'humour. Merci à toi. Je vois que ce que j'essaye de faire fonctionne. Donc, merci d'avoir laissé ce gentil commentaire. Il y en a d'autres. Vous pourrez aller les voir si ça vous dit. Et laissez vous-même aussi un message et une note au podcast sur iTunes. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, il y a le Patreon du Rendez-vous Tech. Si vous voulez rejoindre les 338 Patriotes, j'aime beaucoup ce jeu de mots toujours, les 338 Patriotes qui mettent le cœur et les sous dans l'élaboration du Rendez-vous Tech, qui sont de vrais mécènes pour cette émission. Si elle vous plaît suffisamment pour ça, vous le savez, c'est patreon.com/rendez-vous-tech, RDV Tech plutôt, ou alors, beaucoup plus simple, lrdv.fr, lrdv comme le rendez-vous. .fr et vous pouvez arriver directement à la page de Patreon du Rendez-vous Tech. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir écouté cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis bien amusé. Je commence à avoir la gorge très sèche et je n'ai plus de coca dans mon verre. Donc, je vais m'envoler vers mes caisses qui envahissent mon appartement et qui vont donc, comme vous le savez, m'aider à déménager dans 2 petits jours à peine. Je ne sais pas si je j'aurai internet dès le début de mon déménagement. J'espère, j'ai tout fait pour. Mais vous savez, on ne sait jamais comment ça se produit. Donc, si jamais je ne suis pas autant sur les réseaux sociaux, bon, je serai quand même avec mon iPad et mon téléphone, évidemment. Mais quand même, un petit peu moins si je n'ai pas internet à la maison. J'espère que ça ne tardera pas trop. Je croise les doigts, je prie mes grands dieux pour que j'ai internet tout de suite. Si je disparais, pensez à moi, vous aussi. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Ciao à tous !